Elle saute en parachute. Elle couche dans des maisons hantées. Fait de la danse en ligne avec des zombies dégoulinants. Voici les aventures de l'intrépide Pascal CV.
On a mis Pascal CV au monde. On devrait peut-être l'écouter.
Quand c'est ça, tu sais, comment, ça quel risque t'as pris, là?
Mais je savais pas que j'avais dansé en ligne avec des zombies dégoulinants, chose certaine. Mais toi, Myriam, ce son-là, ça sonne.
Ben, c'est l'école.
Ouais.
C'est l'école. T'es allé à l'école.
La
tu,
pause.
Tu estimes que c'est un danger d'aller à l'école, là. Tu estimes ça périlleux.
Écoute, c'est pas moi qui ai choisi cette intro-là, mais oui, c'est vrai que je vous ai donné des petits reportages où je suis sortie de ma zone de confort, mais là, je suis retournée, en fait, dans une zone que j'ai bien connue et que vous avez connue. La fonte du secondaire, mesdames et messieurs.
On va déjà...
Regarde le bruit.
La jungle.
Penses-tu que tu peux te concentrer à étudier dans ce bruit?
Et oh, c'est une pause, Myriam.
Ben oui, mais pour étudier pour ton examen, il faut bien que tu étudies dans la pause. Tu vas chez vous?
J'ose croire que tu étudies chez toi, parce que la pause, il n'y a pas vraiment de...
Ça, c'est encore drôle.
Oui, mais je suis allée cette semaine, en fait, lundi, tout juste avant d'aller couvrir les élections, dans une école secondaire, rencontrer un directeur. Puis ça donne qu'en fin de semaine, le journal sortait aussi un gros dossier sur ce qui a été amélioré par les directions de certaines écoles primaires, secondaires. Puis je me suis dit, quel beau moment pour le livrer en fin de semaine.
Et n'oublions pas que dans la réforme scolaire envisagée par le ministre, les directeurs vont prendre du galon. Les directeurs, directrices d'école vont devenir les chefs d'orchestre
exact.
Du système d'éducation.
Mais déjà, leurs tâches sont augmentées. Vous allez comprendre que dans plusieurs écoles secondaires, il y a des facteurs influents. Puis c'est pas toujours positif. Là, on est dans une pénurie de main-d'œuvre qui est globale dans le Québec. Là.
J'ai une amie qui a été directrice d'une école primaire à son corps défendant. Ils l'ont supplié d'y aller parce qu'elle était professeure depuis longtemps.
Au secondaire?
Au primaire.
OK.
Et elle dit c'est une job de fou.
C'est sûr. C'est sûr parce que les tâches sont énormes. On parle d'implication totale, que ce soit du matin, midi, au soir, à la fin de semaine. Tu as des rencontres, tu dois gérer le personnel, tu dois gérer les parents, tu dois gérer les étudiants, tu dois gérer tout ce qui est activité parascolaire. Tu as une vision globale de tout ça. Tu es le chef d'orchestre, en fait, de cette école-là.
Tu dois dealer avec la commission scolaire qui t'envoie pas les spécialistes que tu as demandé.
Exact. Les budgets. Écoute, c'est vraiment... Je trouve que c'est un peu comme aller à la guerre quand tu es directeur d'école. Il m'a donné plusieurs casse-têtes dans mon avant-midi avec lui quand il m'expliquait ses tâches. Juste faire des horaires, là.
Ouais.
Il y a quelqu'un qui travaille pour lui à l'école qui va aller faire arrimer un qui est en sport-études, un qui est en art plastique, un qui finalement prendra pas cette option-là. Il n'a pas passé ses maths, mais il faut qu'il suive son groupe. C'est l'enfer. C'est l'apocalypse, c'est le chaos.
Et je vais te dire qu'au collégial, là, c'est rendu aussi les cheminements particuliers des étudiants qui décident qu'ils font leur cégep en 4 ans.
Ah, oui. Ouais.
Puis là, ils sont plus synchronisés avec les gens de leur génération. Ça devient le calvaire faire des horaires.
Moi, je pourrais vous parler des horaires là, pendant toute la chronique, mais on va y aller avec quelque chose qui rejoint tout le monde. Soit, qu'est-ce que vous avez remarqué? Parce que j'ai parlé à Simon Mainville, directeur de la Courvilloise, qui m'a fait faire un tour de l'école, et ça a donné que c'était mon école secondaire aussi. Fait qu'il m'a pas fait visiter grand-chose. J'ai tout exploré en temps et lieu. Mais j'ai lui demandé, c'est quoi la qualité de la génération actuelle? Au moins trois qualités de la génération actuelle.
L'ouverture, ça c'est clair. On voit qu'ils ont une belle ouverture sur les langues aussi, ce qui est très fort là en ce moment. Les programmes où les jeunes apprennent 3 langues au secondaire sont monnaie courante dans nos écoles secondaires. Donc, très ouvert sur le monde, impliqué au niveau aussi environnemental, une belle conscience environnementale. Donc, je pense que c'est dans l'air du temps, mais je pense qu'ils croient aussi profondément. Là. Ils ont le sens d'initiative. Les jeunes qui viennent nous voir, qui ont de l'initiative, on a une très belle génération. Moi, j'ai une très grande confiance en eux.
Peut-être qu'ils vont... Ouais. Martine Ouellet va vendre beaucoup de livres, peut-être, avec cette génération-là.
Mais et on dit aussi que cette génération-là, qu'on appelle les Z, je pense, cette génération-là est beaucoup plus portée sur l'entrepreneurship, sur l'idée de faire eux-mêmes leur chemin sans suivre des rails.
Ouais. Quand on parle d'initiative, par contre, puis ce que tu viens de dire, Myriam, est vrai. Mais il y a un côté négatif à ça. Parce que oui, on a beaucoup d'initiatives, mais peut-être qu'ils n'ont pas la confiance en eux qui va permettre, en fait, la réussite. Et quand on s'est mis à parler des enjeux, là, des défauts, si on veut dire, de cette génération-là, c'est ça qui est ressorti.
Ils ont le sens d'initiative. Mais il y a un petit pendant, il y a aussi un petit défaut aussi au niveau de cette génération-là qui bloque un peu, je trouve, des fois, que je trouve un peu dommage, puis sur lequel il faut qu'on travaille plus que comme école, comme société, c'est de l'anxiété. Donc, qui est aussi là, présentement très présent. Peut-être qu'on a, on les a pas laissés assez prendre d'initiative. Fait que c'est un peu dans ce sens-là que vont certaines de mes interventions à l'école, de dire, OK, faut qu'on leur donne un peu d'initiative, faut qu'on leur donne un certain pouvoir de décision. De l'anxiété, il y a évidemment tous les diagnostics qu'on a. Donc, chaque jeune aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup d'informations sur chacun des jeunes. Des fois même, ça nous questionne. Est-ce que c'est trop? Est-ce qu'on va trop loin dans le surdiagnostic? Des fois, ça nous questionne. Veux pas, là. Il faut prendre tout ça au sérieux. Ça, c'est clair. Il y a des études. Je veux dire, c'est bien documenté. Mais c'est quand même questionnant, ça. En tout cas, moi, c'est une préoccupation que j'ai de dire comment je peux faire maintenant pour, justement, trouver des moyens pour que tout le monde y trouve son compte, là, ici, là, parce qu'on peut pas faire non plus de l'enseignement individualisé, on n'est pas là. Donc, comment on peut fonctionner avec toute cette complexité-là pour que chaque jeune y trouve son compte, que chaque jeune soit bien, que chaque jeune se développe à son plein potentiel?
Ouais, l'anxiété, il a raison. Tu sais, quand un enfant va faire quelque chose, tu sais qu'il va se faire mal. Tu lui dis, tu vas te faire mal. Pouf, tu le laisses faire.
Il apprend.
Il va se faire mal.
Il va le savoir.
Puis il va apprendre. Là, on dit, tu vas te faire mal, puis pouf, on l'enlève du danger tout de suite.
Oui. Ben, en fait, on l'enroule de papier bulle. Puis au moment où il faut enlever ce papier bulle-là, l'enfant est habitué d'en avoir. Donc, ce que ça donne, c'est l'anxiété. C'est une image que je trouve qui est bonne.
Il s'est jamais fait dire qu'il n'était pas bon dans quelque chose. Or, on n'est pas bon partout. Il faut être conscient de ses limites. Moi, je ne pouvais pas jouer au basketball à moins d'être un ballon. il faut être conscient de ses limites, de ses capacités.
Ouais. Par contre, on peut les défoncer, ces portes-là.
Oui, il y a certaines portes qu'on peut défoncer. Il y en a qu'on peut pas défoncer. Mm-hmm. Bon, puis il faut accepter ça aussi. Et il faut aussi vivre des échecs. Être capable de vivre des échecs pour ensuite pouvoir rebondir.
Il y a un événement qui s'appelle le Fail Camp, OK? Puis ça, cet événement-là, je le trouve extraordinaire. Ça se passe à Montréal maintenant, Sherbrooke, je pense qu'il l'accueille. En tout cas, c'est des personnalités connues, publiques ou du monde des affaires qui viennent parler de leurs échecs. Simplement de leurs échecs. Ils viennent pas parler de leur réussite. Puis c'est une bonne façon de voir les choses, de se dire, par mes échecs, j'ai tellement évolué que c'est maintenant pour ça que je suis rendue là. Et c'est ce qu'on retrouve pas, je trouve, avec les enfants actuels. Les échecs, on essaie de les éviter. On change le langage, Puis là, vous me direz, t'es pas psychologue, t'es pas psychiatre, t'es pas pédopsychiatre, tu peux pas te prononcer. Mais c'est juste ma vision des choses. On a une problématique de ce côté-là.
Oui. Faut accepter que les jeunes vivent des échecs. Parce que c'est comme ça qu'ils apprennent qu'un échec, tu n'en meurs pas.
Il faut qu'eux aussi
n'en meurent pas. Moi, je vois parfois, j'ai déjà vu au cégep, des jeunes qui arrivent, puis là, ils ont leur première peine d'amour. Écoute, c'est un monde, là.
Oui, mais ça, c'est normal.
Mais ils s'effondrent. Ils s'effondrent, sont plus capables, sont plus fonctionnels, le corps plan, puis là, c'est toute leur vie professionnelle qui est compromise. Ouais. Wow, les nerfs!
Ouais. Je pense que c'est important de la vivre, cette première peine-là, pour après ça relativiser, puis se dire, ouais, on était donc bien, prends ton pouls, mettons. Prends ton pouls, là, l'amour, tu vas en avoir d'autres, mais ton exemple est très bon parce qu'effectivement, ça ruine des vies à l'école secondaire. Hein? L'amour que ça prend toute la place. Mais il y a un autre enjeu qui est apporté. Puis ça, d'entendre ça d'un directeur d'école, je suis vraiment heureuse. Puis je vous en ai fait un extrait complet.
La santé, ça, c'est une préoccupation que j'ai. Je vois mes jeunes. J'ai la chance d'être dans un milieu où il y a beaucoup de sport, où c'est bien valorisé. Mais il y a un enjeu de société, là, ici, là, de trouver, leur donner le goût de bouger, leur donner le goût de trouver un équilibre. Oui, les études, oui, c'est important de travailler fort. Si on veut pousser, il n'y a pas d'autre chose que le travail qui va amener de bons résultats. Mais il y a un réseau social aussi sain, donc direct aussi avec les gens, là, et souvent virtuel dans leur cas. Donc, mais d'avoir un bon réseau, d'être en contact avec les autres, puis évidemment au niveau de la santé là, physique, là, bouger, bien manger. Donc ça, pour moi, il y a un enjeu important.
L'équilibre. J'apprends ça, j'ai 25 ans, je commence à l'apprendre, puis lui, pour lui, là, ça devrait être enseigné, ou du moins parler avec les jeunes. Puis c'est un directeur d'école qui dit, excuse-moi, c'est bien beau les études, puis c'est sûr que je veux que vous soyez performant. Lui, il y a des statistiques, il faut que ça performe dans son école, mais je veux que les jeunes apprennent avant tout, c'est quoi l'équilibre? Vie sociale, sport.
Tu sais, la jeunesse, par définition, c'est aussi l'excès. Alors, tu peux leur dire, mais tout ce que tu leur dis, ils le mettent à la poubelle, puis heureusement, ils mettent pas la poubelle au chemin.
C'est ça, ils vont regarder plus tard. Mais c'est un beau concept, surtout dans cette panoplie de personnes où on glorifie l'ego, on élimine les échecs, puis ça fait en sorte d'avoir la société actuelle, puis on se crée de l'anxiété. S'ils sont anxieux, ben au moins, leur permet d'avoir un équilibre pourrait les aider. Information aussi sur tout ce
d'autant
qui
d'autant plus que le sport ou l'exercice, ça met en marche notre usine à sérotonine, qui est l'hormone du bonheur.
Oui.
C'est quand tu marches, t'es un peu dopé aux endorphines, là, quand tu fais du sport, là.
Ça élimine le stress aussi.
Et oui, parce que c'est l'hormone du bonheur que tu mets en marche avec ton exercice physique.
Puis je repars pas le débat, mais tu sais, on parlait ce matin de l'article là, de la presse qui est sorti hier, comme quoi il y a des psychiatres qui voudraient qu'on parle de santé mentale à l'école beaucoup plus, puis en englobant justement ce stress et cette anxiété. Puis lui, pour Simon Mainville, qui a été aussi enseignant pendant des années avant, il a vu drastiquement le changement de toute l'arrivée des diagnostics de TDAH, les exigences qui vont avec, mais les exigences aussi de l'établissement scolaire. Elles sont rendues à aller voir au primaire avant que les élèves arrivent au secondaire pour faire des dossiers sur les élèves du primaire, sur tous les élèves qui vont fréquenter leur école.
Ben là, cet exercice-là, les pédagogiques, dans le sens que là, on va rencontrer l'école. On rencontre pas les parents à ce niveau-là. On va vraiment rencontrer l'école primaire. Voir pour chacun des jeunes, est-ce qu'il y a un plan d'intervention qui est prévu pour ce jeune-là? Quelles difficultés. Donc, qu'est-ce qu'on doit prévoir pour comme service à ce jeune-là? Est-ce qu'il y a un suivi TES? Est-ce qu'il y a un ordinateur pour écrire? Donc, tout ce qui est en place, il faut qu'on le sache d'avance.
Ça se faisait-tu avant, ça? De travailler en amont comme ça?
Ça se fait de plus en plus. Quand je parlais de complexité, de professionnalisation, ça fait partie de ça. C'est des choses qui sont graduellement mises en place parce qu'il y a une somme d'informations qui est vraiment importante là, qu'on va chercher à ce niveau-là. Tous ceux qui ont des besoins particuliers, un tiers de temps de supplémentaire pour ces examens, des choses comme ça, ben il faut qu'on ait l'information. Parce que légalement, si le jeune a un plan d'intervention puis qu'il y a une mesure, exemple le tiers du temps, ben comme école secondaire, légalement, je suis aussi lié à ce plan d'intervention-là. Il faut que je le mette en place. S'il utilise un ordinateur en classe, l'ordinateur, il faut que ce soit en classe quand le jeune arrive en septembre aussi. Non, il faut que ça soit déjà là, c'est parce que légalement, souvent ça, des fois les parents sont pas nécessairement au courant de tout ça, mais quand tu as un plan d'intervention, le plan d'intervention suit entre le primaire et le secondaire.
L'avantage, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de rupture de service. Le désavantage, c'est que le jeune ne peut pas faire reset. Moi, je me rappelle, quand on était jeune, là, un des trucs, quand on changeait un jeune d'école, ça lui permettait de ne pas vivre avec tous les jugements qui avait déjà été porté sur lui, soit par ses pères, soit par ses professeurs. Il repartait
à neuf.
Il effaçait l'ardoise, puis il repartait à zéro pour se refaire un réseau.
Pis c'est vrai, quand on change d'école ou d'environnement, ça nous permet justement de laisser derrière nous des choses qui nous ont créé de l'anxiété, justement, ou encore qui nous ont troublés pendant des années. Mais ça, si c'est un diagnostic de TDAH, puis que c'est un outil finalement, moi, pour vrai, là, de savoir qu'ils font des fiches et qu'ils vont rencontrer les futurs élèves de l'école secondaire, c'est une belle technique, là. On est rendu loin, là. On est rendu dans les chercher plus loin, mais félicitations à eux sur le terrain. Et je termine avec la pénurie d'enseignants, qui n'est pas qu'une pénurie d'enseignants, parce que pendant la pause, j'ai dû sortir avec le directeur d'école pour aller surveiller la pause, parce qu'il manque des surveillants, il manque des enseignants, il manque à peu près tout, et voici dans quel contexte ça se passe.
On a des jeunes qui choisissent, ils ont l'opportunité de choisir beaucoup plus qu'à l'époque où moi j'ai commencé. Donc, quand j'ai commencé, on était loin d'être en pénurie de main-d'œuvre. Au contraire, il y avait un taux de chômage beaucoup plus élevé. Donc, quand on nous appelait, on ne disait jamais non à un travail, y compris remplacer un surveillant d'élève, peu importe le travail, on était au rendez-vous. C'est sûr que cette réalité-là, compte tenu de l'emploi présentement, du taux de chômage qui est très bas, ben il y a un certain choix. Là. Les jeunes se permettent des fois de choisir certains contrats. Ils savent de toute façon qu'il va y avoir des contrats un peu partout. Là.
Donc, du magasinage.
Il y a un peu plus de magasinage, ça, mais c'est une réalité. Je peux critiquer ça, moi, du haut de mon expérience, dire ben nous autres, on faisait pas ça, mais on n'était pas non plus dans cette situation-là. Si j'avais été dans la même situation qu'eux, possiblement que j'aurais été tenté, moi aussi, de magasiner. Là.
C'est le problème, c'est que ils continuent dans la fonction publique à faire des appels d'offres pour, par exemple, un remplacement pour une période indéterminée. Or, le jeune qui sait qu'il y a un remplacement pour une période déterminée va aller là, alors qu'eux autres savent très bien que la période indéterminée va se prolonger. Mm-hmm. Alors, on continue à faire semblant qu'on a tout le personnel qu'on veut, quand on le veut, dans les appels d'offres, si bien qu'on n'attire pas le monde. Ils vont devoir, la fonction publique, là, et quand je parle de la fonction publique, c'est les hôpitaux, le système scolaire, ils vont devoir faire comme tous les autres employeurs, ils vont devoir licher le plancher pour avoir du monde. Comprends-tu? Ils vont devoir leur dérouler un tapis rouge. L'idée de « j'ai mangé mon pain noir, tu vas le manger », ça marche plus. C'est capote. Et la fonction publique a beaucoup, beaucoup de difficultés à s'adapter à ça. Pourtant, c'est des belles jobs. Mais ils sont pas capables de s'adapter.
Ils ont le choix.
Ouais. Il est 8h45.